Au Poste est en libre accès et c'est grâce à vos dons. Soutenez-nous sur auposte.fr.
Eh ben bonjour, bonsoir à toutes et à tous qui nous écoutez, nous regardez maintenant ou plus tard au Poste, enfin plus précisément dans le sous-commissariat des affaires historiques, puisque nous allons parler d'histoire. Nous sommes le 4 février, il est 18h. Nous sommes avec Nayan à la technique, Eurial sur le chat. Et je les remercie parce que sans eux, je serais un petit peu comme une poule avec un couteau. Ou un flic avec les droits de l'homme. Et j'ai donc deux convoqués aujourd'hui. Laurence, bonjour.
Salut.
Et Magali, bonjour.
Bonjour.
Je fais une petite intro et après je vous présente plus avant. Donc, nous sommes dans l'émission d'histoire d'Au Poste, qui s'appelle Ouaf Ouaf Ouaf, c'est hyper drôle, du passé faisons table basse. Parce qu'avant, il y avait une table basse. Ben, il n'y a plus de table basse. Mais au début, il y avait une raison. Voilà. Et on ne va pas parler de période du passé, comme on le fait parfois ici. On va parler, en fait, enseignement de l'histoire. L'histoire comme discipline scolaire. On va parler manuel, on va parler programme, on va parler travail en classe. Et on a appelé ça l'histoire, cette poudre à canon. Et donc, pourquoi est-ce que on dit ça, cette poudre à canon? C'est parce que, bah, je pense que vous le savez, enfin vous deux vous le savez, mais celles et ceux qui nous écoutent le savent aussi peut-être, les manuels d'histoire, déjà, font très régulièrement polémique sur les plateaux télé, radio, avec d'ailleurs des confusions entre programmes, manuels, etc. Et la matière histoire n'est pas la seule qui fasse polémique, des fois c'est les sciences nat. On appelait ça sciences nat avant.
J'allais dire, ouais, ça s'appelle plus sciences nat.
Ouais, je sais, mais je suis vieille, tu sais.
Maintenant, c'est SVT.
Je sais, c'est SVT. Mais bon, là, on va parler d'histoire parce que c'est pas de je sais pas moi, de la nature faisons table basse, mais du passé faisons table basse. Et la matière histoire est quand même l'une des plus inflammables. Alors, ce qu'on entend souvent, par exemple, c'est « On n'enseigne plus l'histoire à vos parents, à vos enfants, non !» À vos enfants. Voilà, Clovis a disparu des programmes, Jeanne d'Arc n'est plus enseignée, voilà. Il n'y a plus de chronologie, sachez-le, Macron voudrait qu'on enseigne plus de chronologie. Bref. Qui plus est, c'est aussi ce qui m'a beaucoup donné envie de faire cette émission avec vous. Les manuels scolaires d'histoire sont, et les programmes sont dans le viseur de l'extrême droite. Alors, on l'a vu au Brésil sous Bolsonaro, où en plus, là, les manuels remplacent les programmes. On le voit actuellement en Italie. Une des premières mesures qui a été prise en Italie par Meloni, ça a été de changer les programmes d'histoire. Et c'est au cœur du programme sur l'école du Rassemblement National. On y reviendra. Qui plus est, on est dans un contexte où Bolloré met la main sur les maisons d'édition scolaire, ce qui ne manque pas d'inquiéter. On y reviendra aussi. Et d'ailleurs, là, on voit que c'est assez inflammable. Quand j'ai posté l'annonce de cette émission, bon, il y a plein de gens qui se sont dit « Ouais, c'est super !» Mais, par exemple, sur Blue Sky, parce que, évidemment, je ne suis plus sur X, quelqu'un qui s'appelle Raisonnable, attention, rigolez, c'est ouais, drôle de raisonnabilité, écrivait, je le cite, « En France, les manuels scolaires ont été progressivement réécrit par des idéologues de gauche, avec désormais une forte dose d'écolo-gauchisme. » C'est nouveau, ça vient de sortir. Ouais, ouais. Ces militants ayant le pouvoir au sein de l'éducation nationale, vous saviez pas qu'on avait le pouvoir au sein de l'éducation nationale, il faudra, oui, effacer cette écriture militante et biaisée des manuels. Donc finalement, c'était l'illustration parfaite de ce que je voulais faire. Donc, vous étiez absolument désigné à être convoqué dans ce commissariat pour en parler. Et cette fois, je vous présente un peu plus. Donc, Laurence, tu es enseignante dans le secondaire, tu es chercheuse en histoire de l'éducation et tu es spécialiste de la fabrique scolaire de l'histoire. Donc, ta thèse, c'est dans la classe de l'homme blanc, sur l'enseignement du fait colonial. Tu as aussi dirigé et participé à la fabrique scolaire de l'histoire chez Agone. Tu as écrit sur l'enseignement de l'histoire chez Libertalia. Et tu écris par ailleurs des livres d'histoire pour les enfants. C'est la collection Les Explorateurs de l'Histoire. Et tu es aussi vice-présidente de l'ONED. Et d'ailleurs, on te retrouvera après cette émission toujours au Poste et dans le cadre de l'ONED. Est-ce que tu peux juste nous expliquer un peu ce que c'est que l'ONED?
ONED, ça veut dire Observatoire National de l'Extrême Droite, comme son nom l'indique. C'est une association qui est destinée à exercer une activité de veille permanente et de vigilance permanente sur l'extrême droite dans tous les domaines pour faire une sorte de cartographie un petit peu de qui sont les gens qui la portent, cette extrême droite, quelles sont leurs idées, comment cette extrême droite se diffuse et comment est-ce qu'on peut lutter contre.
Top. Et on dira plus sur ce qui se passe après, à la fin de l'émission. Alors Magali, Jacquemin, bon, je vous appelle par vos prénoms parce qu'on se connaît, hein, mais bon, en général, de toute façon, j'appelle les gens par leurs prénoms, mais donc Magali Jacquemin, tu es professeur des écoles, hein, tu pratiques la pédagogie freinée, si tu pourras après nous expliquer un peu ce que c'est rapidement, et tu es aussi l'autrice du livre « Des élèves à la conquête du passé » aux éditions Libertalia, dans lequel tu réfléchis à l'enseignement de l'histoire en primaire et tu nous plonges au cœur de ta classe.
Tout à fait. Tu veux peut-être que j'explique ce que c'est que la pédagogie freinée, du
ouais.
coup, en premier. Alors, la pédagogie freinée, comme son nom l'indique, c'est une pédagogie qui a été inventée, même si c'est un gros mot de dire inventée, par Élise et Célestin Freinet, donc qui est une vieille pédagogie, en fait, hein, qui a plus de 100 ans maintenant, mais qui est toujours bien vivante. Et ce qui est surtout intéressant, c'est les principes que met en place cette pédagogie, à savoir que dans la classe, on va partir des questionnements des élèves, on va faire rentrer la vie dans la classe pour envisager de rendre les élèves auteurs et autrices de leur propre savoir. Et donc, à chaque fois, on va s'attacher à leur permettre de s'interroger à partir de leur vie, de leur histoire, justement, aussi de leur histoire familiale, de leur vie quotidienne, de la vie du travail de leurs parents, de leur environnement proche et direct. Et à partir de ça, eh bien, c'est à partir de ça qu'on va construire les savoirs scolaires. Et du coup, ça transforme un peu la chose, puisque l'idée, finalement, par exemple, c'est d'apprendre à lire et à écrire parce qu'on en a besoin, au moment où on a besoin. Apprendre à faire de l'histoire parce qu'on en a besoin au moment où on en a besoin. Et donc, c'est une pédagogie qui a une forte visée émancipatrice, puisque l'idée, c'est vraiment de permettre aux enfants de s'approprier les outils scolaires, donc classiques, le français, les maths, l'histoire, la géographie, etc., pour construire leur propre vie, pour transformer peut-être le monde. Et dans cette pédagogie, il y a aussi une forte dimension de coopération entre les élèves et d'autonomisation dans la classe. Moi, j'aime souvent dire que, bien, on leur apprend justement à pratiquer, l'autodétermination, toutes ces choses-là, quoi. Voilà, en gros. Et c'est un mouvement qui existe encore à l'heure actuelle, puisque c'est aussi des collectifs de travail à travers l'ICEM, Pédagogie Freinet, qui est une grosse association, une fédération en fait sur le plan national et international. Voilà, ce qu'on peut en dire.
Merci. Alors, vous êtes aussi toutes les deux, comme moi, hein, je vais pas faire comme si c'était pas le cas, membre d'une association qui s'appelle Aggiornamento Histoire Géo. Alors, Laurence, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est que cette association? Parce que, tant qu'à faire, autant la faire connaître, parce que, forcément, moi, je trouve que c'est une très belle association.
C'est une association écolo-gauchiste.
Exactement.
Comme disait Raisonnable.
Alors, très rapidement, Aggiornamento Histoire Géographie, ça vient d'un article de Suzanne Citron, qui est un peu notre marraine quand on travaille sur l'enseignement de l'histoire. C'était une historienne qui travaillait sur le mythe national. Et en 68, elle a écrit un article dans les Annales, dans lequel elle plaide pour un aggiornamento de l'enseignement de l'histoire et de la géographie. Et en 2011, donc ça date maintenant, hein, j'ai repris ce titre d'article et j'ai moi aussi convoqué, pas au poste à l'époque, mais par mail, un certain nombre de collègues en disant, il faut faire quelque chose. On ne se reconnaît pas forcément dans les associations dominantes de l'histoire et de la géographie. Il faudrait peut-être fonder quelque chose sur la base justement de ce que souhaitait Suzanne Citron. D'ailleurs, Suzanne était encore vivante en 2011, donc elle était aussi destinataire de ce mail. Et on a dit, on y va, on se lance. Donc un collectif qui va de la maternelle à l'université.
Ouais, ce qui est rare. Hein.
Ce qui est très rare. Aussi pour ça d'ailleurs que Magali nous a rejoint. Donc de la maternelle à l'université, qui assume une position finalement minoritaire, c'est-à-dire qui n'a pas vocation à devenir hégémonique et à devenir représentative de quelque chose de très corporatiste, qui réfléchit beaucoup à la question de la pédagogie de l'histoire, un peu moins de la géographie, faute de main-d'œuvre en fait, qui réfléchit beaucoup à la question de la pédagogie justement, et pas simplement au savoir, au sens académique du terme, qui a une visée très horizontale, c'est-à-dire qu'on considère que le savoir de la recherche n'a pas à ruisseler vers les classes, que en fait les enseignants du primaire et du secondaire ont aussi des choses à apprendre aux universitaires, et donc en fait c'est plus une logique de circulation de savoir et de coopération justement, plutôt que comme ça une visée très hiérarchique.
Ce que je peux dire, c'est qu'en tant qu'universitaire, j'apprends énormément de choses.
Voilà. Et puis la dernière chose, c'est que c'est un collectif qui assume d'être marqué à gauche. Voilà, donc il ne se dit pas apolitique, parce que justement Magali parlait de logique émancipatrice de la matière historique, ici toutes les trois, voilà, on en parle souvent entre nous, c'est quelque chose auquel on croit, et ça fait partie de la grande famille de la gauche, voilà, donc c'est aussi ce qu'on défend.
Top. Alors, avant d'aborder ce qui sera plus le cœur de cette émission, notamment les relations avec l'extrême droite, les dangers, etc. Pour que ce soit clair pour tout le monde, est-ce que, alors ça va être encore peut-être Laurence, juste nous rappeler comment sont faits et les programmes scolaires et les manuels scolaires, pour que ce soit clair pour tout le monde et qu'on parle de quelque chose qui est connu, et puis aussi dans le primaire après.
Oui, comment nous on les utilise en fait.
C'est après, ouais, voilà. On verra ça aussi. Ouais.
Donc je vais essayer de ne pas faire un grand tunnel et d'être clair pour le grand public, comme on dit. Alors, un programme d'histoire, c'est écrit par une commission qui a eu plusieurs noms justement dans l'histoire. Aujourd'hui, elle s'appelle Conseil supérieur des programmes.
CSP.
CSP. Voilà, son président est nommé par le ministre de l'Éducation nationale et ses membres sont nommés par le président du CSP. Parmi ses membres, il y a des gens qui sont complètement extérieurs à l'Éducation nationale. On peut être membre du CESE, du Conseil économique et social. Il peut y avoir des gens qui sont représentatifs d'autres associations. Et puis, il y a aussi des gens de la maison, des inspecteurs généraux, des inspecteurs pédagogiques régionaux, des enseignants. Et ce CSP mandate des sous-commissions disciplinaires. Donc, on va avoir une commission pour l'histoire et la géographie, une commission pour, non pas les sciences nat, mais pour la SVT, etc.
Elle se moque.
Voilà, laquelle travaille, rend sa copie. Et ensuite, les programmes sont discutés par l'ensemble du CSP, ce qui est une procédure intéressante parce que, du coup, ça veut dire que d'autres disciplines portent un regard sur toutes les disciplines, en fait. Et puis, ensuite, les programmes provisoires sont soumis à discussion auprès des enseignants. Alors, évidemment, c'est toujours beaucoup trop rapide, extrêmement rapide, souvent très formel, pas du tout démocratique. Mais enfin, dans le principe, c'est ça. Et puis, ensuite, ils sont publiés au bulletin officiel, qui est un peu le journal officiel des enseignants, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment une dimension prescriptive. Ils sont obligatoires. C'est comme des lois, c'est comme des textes de loi. Un manuel scolaire en France, parce que tout ça est très variable selon les pays, un manuel scolaire en France, c'est un produit marchand. C'est un produit commercial, puisque les éditeurs sont tous des éditeurs privés, qui est écrit par des collègues qui ne sont pas tous écolo-gauchistes, contrairement à ce que dit Monsieur Raisonnable, qui sont écrits donc par des collègues. Alors moi, j'ai écrit dans des manuels d'histoire, il y en a d'autres. C'est une équipe de rédacteurs et de rédactrices, avec quelqu'un qui est chargé de coordonner, on va dire, tout ça. Et puis après, c'est un gros travail éditorial, avec des gens qui vont aller chercher des archives iconographiques, avec des gens qui vont faire des cartes, etc., etc. Et puis c'est mis en circulation sur le marché éditorial, le marché de l'édition scolaire est le marché le plus lucratif dans le monde de l'édition, donc c'est des produits qui sont extrêmement précieux aux yeux des éditeurs, et les équipes pédagogiques dans les établissements, aussi bien dans le primaire, dans le premier que dans le second degré, ont liberté de choisir le manuel avec lequel ils souhaitent travailler. Il y a à peu près entre 5 et 6 éditeurs aujourd'hui scolaires, il y a une très très forte concentration, avant il y en avait beaucoup plus. Et voilà. Et donc, un manuel scolaire, pour que les gens comprennent bien la différence, c'est une interprétation de programme. C'est une interprétation, parce que c'est une équipe qui se
met... Mais c'est quand même contraint par le programme.
Et voilà.
On ne peut pas sortir du programme.
On peut, mais si on fait ça, on risque de ne pas être acheté par les équipes dans les établissements, ouais. Donc personne ne le fait.
Mmh. Et dans le primaire
Alors, en fait, ce que tu dis sur le côté, c'est une interprétation de programme, c'est assez important, puisque moi, j'ajouterais une chose, c'est que dans le primaire, en réalité, les enseignants du premier degré, par définition, ne sont pas formés spécifiquement en histoire et sont même très, très peu formés en histoire. Et du coup, le choix du manuel va être fondamental, puisque très souvent, les professeurs des écoles se sentent assez démunis, en réalité, sur la question de l'enseignement de l'histoire et donc vont, entre guillemets, souvent s'en remettre à un manuel. Le choix est assez difficile. Ce qui se passe souvent, c'est que, en fait, on va prendre celui qui se trouve dans la classe dans laquelle on arrive. C'est souvent ce qui se passe. Et sinon, on va essayer de feuilleter ce qui existe sur le marché éditorial pour prendre celui qui nous convient le mieux. Et la plupart du temps, en fait, les enseignants, plutôt que de regarder véritablement ce qu'il y a dans les programmes, vont suivre complètement un manuel. Et du coup, ça donne lieu un peu à une toute puissance de la politique éditoriale qui va être menée par tel ou tel manuel, en fait.
Alors, il y a DataSiam 428 qui demande si les syndicats interviennent ou pas du tout dans l'élaboration des programmes. Quelle est le rôle des syndicats,
oui,
des
tout
enseignants.
À fait. Les syndicats sont auditionnés par le CSP. Donc tous les syndicats, ainsi que les associations,
oui, Adjo avait été
les associations représentatives de toutes les disciplines. J'ajouterai aussi une chose pour mettre dans le pot à penser. La France est le seul pays qui parle de programme. C'est un mot très laid. Parce que déjà, c'est un mot qui est chargé justement d'une dimension extrêmement autoritaire. Dans d'autres pays, on va parler de référentiel, on va parler de plan d'études, on va parler de curriculum. Voilà. Et la France, il y a une sorte en France de fétichisme du programme. Et ça, par exemple, le collectif Aggiornamento travaille beaucoup là-dessus.
Ouais. Et les programmes, ils changent, pas systématiquement, mais souvent quand on change les majorités.
Oh non, il n'y a vraiment pas forcément d'adéquation avec justement les alternances politiques.
Pour moi, je me disais...
Non, parce qu'en fait, au collège et dans le premier degré, c'est Najat Vallaud-Belkacem.
C'est toujours
c'est les programmes de 2016.
Ouais. Toujours OK.
Les temporalités sont très, très variables pour les programmes. Là, par exemple, ils vont changer, ça fait 10 ans qu'il y a les mêmes programmes.
Collège
et au premier degré. Okay. Ouais. Au lycée, effectivement, c'est des programmes 2019. Ouais. Donc, il n'est pas du tout encore question pour l'instant de les changer. Et pourtant, ça commence déjà à dater. Là, c'était effectivement Blanquer. Mais non, il n'y a pas forcément d'adéquation entre le temps politicien et le temps des programmes.
Oui, puis moi, je voulais ajouter une chose sur la question de l'interprétation des programmes. C'est vrai que ce mot, il y a un fétichisme en France là-dessus, mais je pense qu'il est finalement plus fort dans le second degré que dans le premier degré, parce que quand on regarde les programmes de 2016, ceux sur lesquels on est censé, à partir desquels on est censé enseigner, en réalité, il y a une très très grande liberté pédagogique dans ces programmes.
Dans le primaire.
Dans le primaire. Effectivement, d'abord, en fait, je vais me centrer sur le cycle 3, donc le CM1, CM2, qui est le moment où, en fait, on va enseigner un programme chronologique. La chronologie est découpée en deux entre ces deux classes.
On va y revenir à la chronologie, t'inquiète.
Ouais, mais juste, en fait, parce que donc dedans, il y a cette chronologie avec un peu une idée de programme, véritablement. Mais en fait, ce qui est dit dans 2016, c'est que la façon de traiter les différents points de la chronologie sont un peu laissés libres aux enseignants. Il y a des exemples de thématiques. Et surtout, ce qui nous est demandé, c'est de s'accrocher le plus possible à ce qui est le plus proche des enfants. Et ça, c'est quelque chose de très fort, mais en fait qui va pas se ressentir dans les manuels, parce que les manuels vont au contraire s'accrocher à une chronologie et justement à des choix de thèmes qui du coup vont avoir une toute puissance vis-à-vis de ce que vont faire les enseignants.
D'accord. Alors vous avez toutes les deux amené des manuels, je les vois, donc si vous voulez les présenter vite fait pour que celles et ceux qui nous regardent voient un peu. Alors historiquement, on commence par un très vieux.
Alors faut savoir que Suzanne Citron dont je parlais m'a légué sa bibliothèque et donc, enfin une partie de sa bibliothèque, et donc elle avait plein de vieux manuels. Là, il faut que je montre où.
Là.
Voilà, ça c'est un trésor. C'est le fameux Petit Lavis. Donc normalement, beaucoup de gens ont entendu parler du Petit Lavis. Celui-là, il date de 1924, mais les premiers Petit Lavis, date de la fin du 19e siècle. Lavis, il a écrit des livres d'histoire du CP jusqu'à la terminale. C'est assez extraordinaire, alors qu'il était prof d'histoire moderne à la Sorbonne. Va en trouver des profs d'histoire moderne qui écrivent des manuels du CP jusqu'à la terminale.
Non, donc, ça se fait plus trop.
Je lis juste ce qu'il a écrit dessus. Enfant, tu vois sur la couverture de ce livre les fleurs et les fruits de la France. Dans ce livre, tu apprendras l'histoire de France. Tu dois aimer la France parce que la nature l'a faite belle et parce que son histoire l'a faite grande. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le petit manuel d'endoctrinement patriotique, nationaliste et revanchard. Alors, plus trop revanchard parce qu'on est en 24, donc on est après la Première Guerre mondiale. Et c'est pour le cours moyen, parce que le petit Lavis, c'est CM1. Voilà. Ce qui est intéressant dans ce bouquin, c'est qu'en fait, c'est un bouquin qui raconte une histoire. Là, c'est vraiment un bouquin qui raconte une histoire. C'est pour ça que là, on peut dire ça, c'est un livre d'histoire. On peut le mettre, c'est le livre de chevet. D'ailleurs, il était fait aussi bien pour les parents que pour les enfants. J'en montre un deuxième, juste qui est alors beaucoup d'années plus tard, parce que c'est dans les années 70. En fait, dans les années 70, à l'école, ça c'est au CM aussi, hein, donc cours moyen.
Enfin, c'est peut-être celui que j'ai eu.
C'est bien possible parce que c'est vraiment un manuel d'endoctrinement gauchiste, donc ça te ressemble complètement parce que, voilà, je prends une page par hasard, 1789, c'est la libération du paysan, les dépenses des gens riches.
Hein, ah ouais.
Voilà, les dépenses des gens riches. Et puis après, bah, celle d'après, t'as les pauvres. Hein, voilà, donc les riches et les pauvres. Ouais. Et t'as surtout un petit exergue, c'est-à-dire c'est des questions qui sont posées aux gamins. Et la dernière question, c'est de telles inégalités peuvent-elles durer longtemps ? Ça, c'était vraiment des manuels de gauche, ouais. Voilà. Parce que dans les années 70, on était après 68 et c'était les profs se sont un petit peu lâchés. Et juste aujourd'hui, un manuel, en fait. Alors là, c'est plus vraiment un livre. Voilà, là on peut parler de manuel. C'est un objet, moi dans mes articles je dis c'est un objet hybride. En fait ça raconte plus d'histoire, hein. C'est une succession de documents, avec des questions sur les documents, avec des extraits de texte, des photos, etc. Bon, celui-là c'est celui d'une terminale technologique. Et c'est pas du tout un livre de chevet. Enfin, faut vraiment en avoir envie pour en faire son livre de chevet, quoi. C'est un outil pédagogique, c'est un support pédagogique, voilà, simplement. Donc aujourd'hui, on dit que c'est ultra didactisé, justement. Mm.
Ouais, il y a quelqu'un, alors malheureusement son nom a été effacé, mais qui demandait s'il y a des grosses différences entre les maisons d'édition des manuels.
Moi je peux un peu y répondre, parce qu'effectivement ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est que je vous ai apporté plusieurs programmes, plusieurs manuels d'histoire d'une même classe, en fait, d'un même niveau. Et là en fait c'est des manuels qui sont donc en CM1, CM2.
Et quand et on regarde... Et qui sont pour les profs là en fait.
Comment ? Alors les manuels en fait c'est ça aussi, c'est que dans les classes... on va souvent réutiliser ce qui préexiste quand on arrive dans la classe parce que ça coûte très très cher. Et si on veut en avoir un par élève, bah, on va pas en commander tous les ans. Donc souvent, on a des vieux manuels. Moi, j'en ai même apporté un qui date de 2008 ici. Et ce qui est intéressant, tu disais, bah oui, c'est un objet didactique avec une succession de documents. Et c'est là qu'intervient l'édition, en fait, parce que ça dépend des documents. Et par exemple, bah, ça peut être très différent. Dans celui-ci, on parle de la Seconde Guerre mondiale on a des documents iconographiques qui montre notamment, pour la victoire des Alliés, le débarquement américain. Donc voilà, il y a ce document-là. Et puis, dans cet autre manuel, si on regarde exactement le même thème, la Seconde Guerre mondiale, donc, eh bien, on va découvrir... je suis désolée, j'aurais dû... mettre des post-it, je suis un peu nulle quand même. On va découvrir que, dans celui-ci, on parle des tirailleurs sénégalais.
Ouais.
Donc en fait... Bah, suivant le manuel que va avoir le prof, les élèves ne vont pas être exposés au même document, savoir. Ouais, ouais. Au même savoir, même. Parce qu'en fait, la plupart des professeurs des écoles, et c'est bien normal, vont s'en remettre complètement au manuel qu'ils ont dans les mains. Et du coup, il y a des histoires qui sont plus ou moins racontées, ou même passées sous silence, suivant celui qu'on choisit.
D'accord. Et il y a aussi tout un débat actuellement, d'ailleurs ça a donné des mobilisations de professeurs, sur la question des manuels numériques. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu, puis à votre avis, ça change quoi qu'on passe à des manuels numériques ? Est-ce que c'est bien ou pas bien ?
Oui, alors il y a deux manières de critiquer, enfin il y a deux manières complémentaires de critiquer le manuel numérique. La première, c'est en général le poids du numérique à l'école. Mmh. Et le lobbying aussi hein, de certaines entreprises privées justement qui sont porteuses de logiciels, de machins, de trucs qui sont de plus en plus encouragés par l'institution, ce qui pose quand même un problème de financement public de logiciels privés. Ce qui pose un autre problème de soumission des enfants à une logique de l'écran en permanence.
Alors qu'on leur dit qu'il faut pas.
Exactement. Ouais. Alors qu'à côté, on leur dit qu'ils ont plus le droit de toucher leur téléphone, qu'il faut pas aller sur les réseaux sociaux, etc., etc. Et puis, la troisième manière de le critiquer, c'est effectivement dans notre domaine à nous, qui est celui de l'histoire et de la géographie. Plus précisément, moi, je vais rester sur l'histoire parce que je suis moins géographe. En fait, comme je le disais tout à l'heure, l'objet, que ce soit le petit Lavis ou celui qu'a montré Magali plus récent, ça reste quand même un objet dont on tourne les pages. Et faire de l'histoire, c'est la science des hommes et des femmes, on va dire, dans le temps. Hein, c'est la définition de Marc Bloch. Hein. Et donc, chez les tout-petits, par exemple, les premiers cours d'histoire, c'est des histoires de construction du temps. C'est-à-dire comprendre le temps. Et tourner les pages d'un livre...
Ça aide.
C'est avancer en fait, et c'est donc comprendre que il y a ce qui s'est passé avant, et puis il y a ce qui va se passer après. On va vite tourner les pages pour voir ce qui se passe après. C'est comme ça qu'on lit un livre. Or, un manuel numérique, il y a plus de pages. On se balade avec une souris sur un écran ou sur une tablette parce qu'ils filent des tablettes gratos au collège.
Ça,
et oui. Ouais, ouais. Et donc, on perd une dimension très très importante. Et pas que chez les petits, parce qu'en fait, même chez les adolescents au collège, enfin, faut rappeler qu'un sixième, il a 11 ans, hein, c'est quand même un enfant, hein. Et même plus tard, à 17 ou 18 ans, il y a toujours cette idée de je joue avec le temps, c'est notre matière première, en fait. Et donc, le manuel numérique, il va supprimer la dimension matérielle de l'expérience du temps. Et ça, c'est quand même un vrai problème qui est rarement dit. C'est pour ça que j'insiste sur celui-ci.
Je l'avais jamais pensé comme ça,
ouais. Ouais, et c'est vrai que, Après, en primaire, on n'a pas trop de manuels numériques. Par contre, dans le secondaire, c'est la même chose. C'est vrai que une des puissances de l'outil numérique en histoire, ça va être de pouvoir montrer des documents qui n'existent plus et du coup de pouvoir les montrer à une classe tout entière en le regardant vraiment très en détail, puisque on va pouvoir se promener dans l'image, etc. Donc ça, c'est très important. Mais toi, tu évoquais le fait de feuilleter le livre. Moi, j'évoquerais aussi le fait de rendre sensible ce que c'est que le temps, ce que c'est que l'histoire, ce que c'est que l'histoire des êtres humains. En fait, de ceux qui ont existé avant nous, qui auraient été nous si on avait vécu à cette époque-là. Et finalement, dans une classe, c'est tout aussi important de pouvoir palper le temps, pouvoir palper l'archive. Mais ça, c'est très compliqué et ça demande un artisanat très fort, finalement, parce qu'on ne peut pas
tout
le temps...
C'est ça, les boîtes ?
C'est ça, les boîtes. On ne peut pas emmener tout le temps nos élèves aux archives, bien qu'il existe plein d'ateliers de médiation aux archives départementales, notamment, qui sont à destination des élèves et qui sont en général des moments très forts. Et du coup, en fait, moi, j'utilise souvent les manuels en les découpant. Ouh la vilaine. Pour prendre les documents et les transformer comme de véritables archives pour que les élèves puissent avoir ça. Et donc, dans ma classe, effectivement, bah, il y a des boîtes d'archives. Alors, il y a celle-ci sur l'histoire. Mon école est dans le quartier de la Villette, à Paris. Et du coup, bah, il y a une boîte dans laquelle il y a des documents sur l'histoire du quartier de la Villette. Et voilà. Alors, j'en découpe dans les livres, j'en imprime aussi. Ça, c'est un plan de la Villette qui date de 1780. Et puis, pour qu'il soit maniable...
Ah, c'est rural. C'est rural.
Voilà. Pour qu'il soit maniable par des élèves et qu'il soit au long terme, eh ben, je les plastifie. Mais ça prend un temps énorme, évidemment. Mais ça, c'est super important de pouvoir manier ces documents-là. Voilà. Recensement d'une rue de notre quartier en 1926. Ce genre de choses. Voilà.
Classe.
Qu'on pourrait pas faire avec le numérique.
Bah, tu vois, il y a quelqu'un qui dit pédagogie freinée.
Ah oui, complètement.
Et alors, il y a quelqu'un, c'est Pinguini, qui dit que quand on scrolle un manuel numérique, on tourne aussi un peu.
Alors, pas dans les manuels qui sont donnés sur les tablettes des gamins. Il y a... Alors oui, vous avez certains manuels qui vont imiter la page qui tourne. Mais en fait, en réalité, la page de manuel en numérique, c'est tu vas cliquer sur un texte pour grossir le texte, tu vas avoir des questions sur le texte, tu vas devoir répondre avec ta tablette ou ton ordinateur aux questions. On va vérifier si ça correspond aux bonnes réponses. Donc, c'est plus du tout le processus de la lecture ou des pages qu'on tourne, en fait. Parce qu'il y a le manuel numérique et il y a donc les usages qui sont induits par le support numérique. Et donc, ça ne s'utilise plus du tout de la même façon.
Ok. Alors, maintenant, on va aborder la question des critiques, des attaques qui sont faites contre les programmes, contre les manuels scolaires. Hein. À un moment, vous me suggériez comme titre de l'émission « Faut-il brûler les manuels scolaires hein ?» Et comme je le disais dans la petite intro, il y a tout un tas d'attaques et il y a celle « On n'enseigne plus Clovis », alors « On n'enseigne plus les Lumières », »,« On n'enseigne plus Jeanne d'Arc », »,« On n'enseigne plus qui », »,« On n'enseigne plus », mais... Et de façon très générale, les profs disent « Ah, si, donc vous me confirmez, on enseigne toujours tout ça ?»
Ah oui, oui, oui. Oui. En tout cas, ce dont tu viens de parler, oui.
Est-ce qu'il y a qu'est-ce qui a disparu quelles attaques, enfin vous, quelles critiques vous feriez des programmes et des manuels actuels ?
Alors, la question est très large. Du coup, je vais parler que pour le secondaire et puis tu vas prendre le primaire parce que sinon, on va pas s'en sortir. Alors, la première critique, c'est vraiment la plus importante, en fait, c'est la lourdeur. Voilà. C'est pas tellement une critique thématique. C'est la lourdeur, c'est-à-dire la densité, l'intensité des programmes. Effectivement, contrairement aux primaires, nous, les programmes, dans certaines classes, on est bien obligé de les terminer parce qu'il y a un pilotage par l'examen. Donc, de toute façon, il faut le finir
Le brevet des collèges
en troisième, t'as le brevet des collèges, il faut que tu fais tout le programme. Alors, la lourdeur, pourquoi est-ce qu'elle est importante? Parce que la lourdeur, elle impose une cadence qui est extrêmement rapide et donc une pédagogie qui est exactement l'inverse de ce que disait Magali, c'est-à-dire une pédagogie qui est uniquement magistrale, faut aller le plus vite possible. Et donc, les gens qui regardent, là, peut-être qu'ils sont en train de se demander ce dont ils se souviennent, en fait, de leur cours d'histoire. C'est un exercice hyper intéressant à faire. De quoi vous vous souvenez de vos cours d'histoire, vous qui n'êtes pas du tout historienne ou historien? Vous allez voir, là, vous êtes un petit peu honteux à vous dire, oh là là, mais je me souviens pas de grand-chose, hein. Ou alors ça, mais non, mais ça, je l'ai pas vu à l'école, je l'ai vu dans une BD, je l'ai vu dans un film, etc.
Puis c'est flou,
et c'est normal, parce que on va tellement vite qu'on ne laisse pas le temps aux élèves de se poser des questions. Or, nous, pourquoi est-ce qu'on a fait de l'histoire? Parce que c'est la matière avec laquelle on pense, c'est la matière avec laquelle on réfléchit, au sens propre du terme. Ouais. Réfléchir, c'est le miroir qui réfléchit. Alors, quand on fait de la pédagogie magistrale, on n'a pas le temps de réfléchir.
Il y a quelqu'un qui a écrit « Il faut finir le programme !»
Voilà, et avec des majuscules partout.
Voilà.
Donc, ça, c'est vraiment la première critique. Parce qu'une fois qu'on a fait cette critique-là, eh bien, en réalité, ce qui a disparu ou ce qui n'a pas disparu, on s'en fout. Parce que si on plaide, comme c'est mon cas, pour 30% d'allègement des programmes, ça veut dire qu'on va prendre le temps, par exemple, on va prendre le temps sur la révolution de 1848, je dis ça comme ça, vraiment au hasard, l'exemple,
tu vois.
On va prendre le temps sur la révolution de 1848, on va poser des jalons qui vont permettre de comprendre ce que c'est qu'une révolution. Et donc après, on pourra être éventuellement un petit peu plus rapide sur la Commune de Paris. On pourra même laisser aux collègues mai 68, parce qu'on aura implanté, si j'ose dire, des manières de penser ce qu'est une révolution. Ça, c'est une première chose. D'autre part, si on rédige des programmes de façon extrêmement vague, comme moi aussi, je plaide pour ça. Par exemple, moi, je voudrais qu'il y ait juste la Première Guerre mondiale.
Ouais.
Voilà.
Et non pas au primaire.
Voilà. Et non pas les femmes, les machins, les dates, les mutineries, etc. Parce que ça, c'est directif. Moi, si on me dit la Première Guerre mondiale, eh ben, je fais ce que je veux dedans. Je vais le faire du point de vue de l'histoire des femmes, je vais le faire du point de vue de l'histoire des colonisés, je vais le faire du point de vue du front, de l'arrière, etc. Je vais me faire plaisir, je vais acheter le dernier livre qui est paru sur la Première Guerre mondiale, et puis je vais introduire dans mes cours ce que je viens de lire sur la Première Guerre mondiale. Et en fait, je vais être beaucoup plus libre avec des intitulés qui sont beaucoup plus vastes. Voilà.
Et ce sera mieux pour les élèves.
Et ce sera beaucoup mieux pour les élèves et pour les profs, parce que tu te fais plaisir, parce que tu es toujours en train d'actualiser tes connaissances. Donc, la grosse critique qu'on peut faire au programme aujourd'hui, en fait, c'est qu'il y a une telle concurrence entre toutes les associations, toutes les historiographies, qu'ils veulent en dire le plus possible. Et donc, on a un peu d'histoire sociale, on a un peu d'histoire des femmes, on a un peu d'histoire politique, on a un peu d'histoire sur le temps long, on a un peu d'histoire sur le temps court, on a beaucoup de France, un petit peu de monde, etc. Et tout ça, en fait, a une cadence imbuvable pour les gamins, et donc qui ne produit rien d'autre que du kaléidoscope qu'ils apprennent par cœur pour pouvoir recracher le jour du contrôle.
Et qu'ils oublient
et dans qu'ils la oublient instantanément, une fois qu'ils sont passés en cours de sciences nat.
Ouais. C'est ce que j'ai à en dire en tant que maman d'élève d'une élève de première. Effectivement, c'est exactement ça. Elle a toujours considéré, depuis qu'elle est au collège, qu'en fait, elle apprend pour le contrôle et qu'après, elle oublie et c'est pas grave. En primaire, c'est très différent. En réalité, moi, les programmes de 2016, je vais pas les critiquer. Je vais les mettre en avant. Et je vais d'autant plus les mettre en avant que là, ce qu'on a pu entrevoir comme projet de futur programme, justement, ça va revenir sur une chronologie qui démarre en classe de CE2, à un moment où les élèves sont très très jeunes, alors que actuellement les programmes de 2016 proposent tout autre chose. D'abord, on ne commence la chronologie véritablement, je l'ai dit tout à l'heure, qu'en CM1. Et ça, c'est quelque chose de très important. Ça veut dire que dans les petites classes, on va vraiment sentir ce que c'est que la matière historique, ce que c'est que la construction du temps, et y compris ce que sont certains concepts. Tu parlais tout à l'heure de travailler le concept de révolution à partir de 1848. Eh bien, en classe de CE2, par exemple, on va travailler, on va se poser la question, qu'est-ce que c'est qu'un roi ? Qu'est-ce que c'est qu'un empire ? Qu'est-ce que c'est que la démocratie ? Qu'est-ce que c'est que habiter ? Etc, etc. Et ça, ça va poser des jalons dans la tête des élèves pour ensuite comprendre la chronologie. Mmh. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose qui est très importante, c'est que justement, ce flou que tu voudrais, nous, on l'a en primaire. On a ce côté, la révolution industrielle, débrouillez-vous avec ça. C'est pas débrouillez-vous avec ça, c'est en fait partez de la réalité des élèves. Ce qui, moi, me permet effectivement de traiter la révolution industrielle à travers le quartier de la Villette, par exemple. Et puis, une troisième chose qui est très, très importante dans les programmes de 2016, c'est que l'histoire, on en fait aussi justement pour apprendre à penser. Parce que une des dimensions de ces programmes, c'est apprendre à penser par l'écriture, par la production de traces écrites avec les élèves. Et donc là, on est au cœur de ce que c'est que la méthode historique et justement de ce pourquoi nous, on fait de l'histoire pour apprendre à confronter, apprendre à penser. Et ça, c'est super important. Et c'est ce qu'on risque de perdre avec les nouveaux programmes qui vont revenir à une chronologie dès la classe de CE2.
Oui, parce que là, il y a... Alors, j'ai du mal à lire parce qu'en fait, comme j'ai des problèmes d'yeux, enfin, l'âge, tout ça, vous savez, donc ça, on dirait un roman.
Non, je vois pas de quoi tu parles.
Ouais.
Pas du tout.
Mais je vois rien, là. En fait, c'est pour ça que des fois, David, il me dit que je dis pas les noms, mais en fait, je vois pas bien. C'est horrible, je suis trop vieille. Et il dit l'histoire, c'est du par cœur. Mais non, l'histoire, enfin, voilà. Il faudrait pas que ce soit du par cœur. Et c'est du par cœur parce que c'est trop.
Alors, Ernest Lavis, il disait l'histoire s'apprend par le cœur, pour le cœur.
Ouais.
Ah là là.
Mais en fait, les attaques qui sont faites sont des attaques véritablement politiques. Qui sont faites par des gens... ce sont des lamentations qui existent depuis le début des années 80, on peut tout à fait dater. Hein. Le premier à avoir mis en avant ces attaques, c'est quelqu'un qui s'appelle Alain Decaux. Ouais, les plus vieux et les plus vieilles connaissent.
Le fameux « On n'enseigne plus l'histoire ».«
On n'enseigne plus l'histoire à vos enfants », c'est la une du Figaro Magazine, on est en 1984, et ça construit une espèce de paradigme de la peur de la dilution de l'identité française. Voilà. Et donc, toutes les attaques qui sont faites contre les programmes d'histoire, c'est toujours cette peur-là derrière. C'est vraiment quelque chose de disproportionné complètement avec cette idée de la chute civilisationnelle. Et c'est pour ça que régulièrement, on a des gens comme... Alors maintenant, il est mort, mais pour les programmes 2015, c'était Pierre Nora qui était intervenu hein, pour dire comment ça, on préfère préfère enseigner l'histoire de la traite et de l'esclavage plutôt que l'histoire des Lumières. On a des gens comme Finkielkraut, hein, qui est encore là, lui, bien accroché, et en fait qui ne s'intéresse à la question de l'enseignement de l'histoire qu'au moment où il y a des nouveaux programmes qui sortent et qui vont regarder très rapidement, et ils vont pas voir leur mot fétiche, hein, qui va être Nation, Jeanne d'Arc, Clovis, Charlemagne, etc. Et donc, ils vont provoquer mais vraiment des paniques morales. Ouais. Hein. Et c'est incroyable, il y a vraiment qu'en France que c'est comme ça, c'est-à-dire qu'on touche une virgule d'un programme scolaire, ça fait la une du 20h, quoi. Ouais. Ça fait la une du 20h. C'est toujours
d'où
les mêmes.
D'où cette poudre à canon.
Exactement, voilà. C'est toujours les mêmes, et derrière, c'est vraiment des logiques qui sont des logiques très politiques, hein, qui reposent sur une vision complètement dépassée de l'enseignement de l'histoire, qui est justement celle de Lavis, hein. C'est que moi, c'est celle que j'appelle l'histoire courrier du cœur, quoi. C'est cette idée que, en fait, en apprenant l'histoire de France, eh bien, on aime l'histoire de France, et donc on devient un bon petit Français, prêt à défendre la France attaquée. Attaquée par qui? Bah, attaquée par les vilains immigrés, attaquée par les musulmans, etc. Ouais. C'est tout ça à l'arrière-plan.
Ouais. Mais des critiques contre les manuels, il y en a eu avant Decaux, et d'ailleurs elles étaient plutôt à gauche, tu me disais, les premières.
Alors parmi les premières critiques, c'est Freinet.
Et oui, oui, oui.
Ah, on
et
revient.
Oui, oui, Freinet, justement, il critiquait le côté apprendre une histoire par cœur, avec des dates, avec des noms, etc. Et comme je l'expliquais tout à l'heure, la pédagogie Freinet, l'idée vraiment maîtresse de cette pédagogie, c'est de partir du milieu des enfants, on fait de l'étude du milieu. De leurs questionnements, et du coup pour ça il va falloir pouvoir interroger ce qui est l'environnement proche, l'environnement familial, etc. Et c'est à partir de ça, à partir de cette micro-histoire qui appartient aux enfants, à leurs parents, à l'endroit où ils vivent, que on va se servir de la entre guillemets grande histoire pour poser en fait des savoirs qui vont s'intégrer à l'intérieur de tout ça. Et puis il avait inventé quelque chose dont toi tu parles souvent et qu'on a pas encore retrouvé, c'était ce qu'il appelait une chronologie mobile, en fait, où l'idée, justement, c'était, à partir de tout ce qu'on va emmagasiner dans une classe, construire le temps, construire la chronologie, et parce qu'on va s'interroger, on va se questionner, du coup, on va aller chercher sur la grande histoire, etc. Et c'est comme ça qu'on va construire les choses. C'est pour ça que, en fait... Freinet était viscéralement contre les manuels. En même temps, dans les classes Freinet, on trouve aussi des manuels pour la même raison que j'ai donnée tout à l'heure, qui est que, en fait, c'est une manne de documents extraordinaires. Et puis, les enfants eux-mêmes, moi, ça m'est arrivé régulièrement, je le raconte dans mon livre, en conseil de coopération, quand on réunit la classe.
Alors peut-être faudrait que tu expliques ce que c'est qu'un conseil de coopération. Parce que donc, quand on ne connaît pas la pédagogie Freinet.
Dans une classe Freinet, comme on part de la vie des enfants, il y a des pratiques autogestionnaires très, très fortes. Alors, pour le coup, on les apprend à être de bons gauchistes. On leur apprend à plus tard mener une AG syndicale, une AG de grève par le conseil de coopération, qui se réunit une fois par semaine. Donc, on se met en cercle dans la classe. Au préalable, les élèves, mais aussi l'enseignant, se sont inscrits pour un certain nombre de propositions, pour un certain nombre de problèmes à régler, etc. Et les propositions vont toucher à absolument toute la vie de la classe quand on fait vraiment le travail. C'est pas simplement « je propose une sortie de fin d'année ». C'est aussi, je propose qu'on étudie ci ou ça, dans tel domaine. Et du coup, moi, ça m'est arrivé en conseil de coopération d'avoir des élèves qui disent « mais là, en fait, ça va pas, sur la chronologie, il y a des trous. » Donc moi, Mohamed, j'ai vu que les trous s'arrêtaient à 1492, donc maîtresse, s'il te plaît, maintenant, tu vas nous combler tous les trous de manière chronologique. Et donc, en fait, les enfants, ils ont aussi besoin, bien sûr, de ce manuel, de cette idée qu'on feuillette un temps qui passe, ce qu'il y a eu avant, ce qu'il va y avoir après, etc., pour avoir des repères, pour poser des repères. Donc, en réalité, c'est quand même très important aussi. Mais voilà.
Et Freinet, il appartenait à un syndicat syndicaliste révolutionnaire qui était l'école émancipée. Et l'école émancipée a aussi fourni une critique très très forte des manuels scolaires, qui étaient vraiment vus à juste titre, hein, par ailleurs, hein, comme des manuels d'endoctrinement revanchard. Il faut savoir que fin 19e, l'histoire à l'école, hein, c'est une histoire qui est vraiment faite pour récupérer l'Alsace et la Lorraine. Hein, je schématise, mais enfin, c'est vraiment le bon petit guerrier. Hein, l'enfant militarisé est présent, très très présent, par exemple, dans les petits Lavis. Et donc, en tant que mouvement pacifiste, école émancipée, au début du XXe siècle, dans les années 20, j'aurais dû l'amener, j'ai oublié, c'est celui-là que j'ai oublié, a publié un contre-manuel, en fait, un contre-manuel d'histoire, qui est une sorte d'histoire populaire. C'est-à-dire qu'il prend le contre-pied complètement de cette histoire patriotique, nationaliste, revancharde. Alors, on y trouve des femmes, on y trouve surtout, évidemment, des ouvriers. On y trouve toute l'histoire des luttes sociales. Je dis ouvriers parce qu'il y a plus d'ouvriers que d'ouvrières, quand même. On y trouve toute l'histoire des luttes sociales. Et ça procède, en effet, d'une critique très à gauche et très révolutionnaire d'un objet qui est considéré comme un objet d'endoctrinement droitard, quoi.
Il y a ce côté-là. Et puis, il y a aussi, souvent, un manuel d'histoire, c'est quoi ? C'est apprendre des grands noms, c'est apprendre des grands personnages qui auraient fait l'histoire tout seuls. Et quand on s'affranchit de ça et qu'on demande en début d'année aux élèves « Mais à quoi ça sert de faire l'histoire ? Et pourquoi on en fait à l'école ?» Alors au début, ils ont des réponses très convenues et très attendues. Ça sert à connaître tous les rois et toutes les reines, les présidents de la République. Ça sert à connaître les grandes périodes, etc. Et puis quand on creuse un peu et que en parallèlement à ça, on fait ce qu'on appelle de l'étude du milieu. Du coup, on va se balader dans le quartier, on interroge l'histoire familiale, etc. Très rapidement, l'histoire populaire, c'est aussi l'histoire des personnes ordinaires, finalement. Et tout le monde a fait l'histoire. Et partir de là,
ce que Laurence appelle les « jeux et nous du passé ».
Les « vous » et « nous » du passé.
Et partir de là, ça va permettre aussi aux élèves de comprendre que, en fait, l'histoire, c'est l'histoire des gens. L'histoire des êtres humains. Et ça, c'est quand même quelque chose de très, très fort et qui marche vraiment complètement. Je donnerai juste un exemple. Moi, quand on se balade dans le quartier, quand on va dans d'autres écoles, alors mon école est récente, mais dans d'autres écoles qui datent d'époques plus anciennes, très, très souvent, on va trouver des plaques commémoratives des petits enfants juifs qui ont été arrêtés et déportés pendant la Seconde Guerre mondiale. Et tout à coup, les enfants sont nés à nez, en fait, avec ce qu'ils auraient pu être s'ils avaient habité ce quartier-là, à ce moment-là. Et c'est à partir de là qu'on va faire cette histoire de la Seconde Guerre mondiale. Et ça s'accroche à leur propre vécu. Et c'est bien ça, l'histoire, en fait.
Et pour revenir à ces attaques, souvent, Laurence, quand je t'entends en parler, tu dis, en plus, de toute façon, parce que tu cites une étude qui montre que quand on demande aux enfants ou un peu plus grands de raconter, de faire un récit historique, au bout du compte, ce qui sort, c'est les trucs qu'ils ont en permanence peur, ces paniqués moraux de l'histoire, de voir disparaître.
Oui, alors l'étude, elle commence à dater un peu, mais bon, c'est la seule dont on dispose. C'est une enquête qui a été faite sur 7000 récits d'élèves à laquelle j'ai participé. Et donc maintenant, elle a presque 10 ans, cette enquête. Et on leur a demandé, raconte comme tu le veux l'histoire de ton pays. C'était ça la consigne. Et on a constaté en dépouillant l'ensemble des réponses, donc ça allait vraiment de la sixième, donc des gamins qui sortaient de CM2 jusqu'à la première année d'université pour avoir des gamins qui sortaient du lycée, et puis la seconde pour avoir des gamins qui sortaient du collège. Donc on avait vraiment un échantillon très très représentatif. Et c'est vrai que le récit de la plupart des élèves, et en lycée pro, et en lycée général, et en lycée technologique, c'était un récit national-républicain. Donc vraiment, ce récit national à la vie, c'est un peu de choses près. Pas d'histoire coloniale, pas d'histoire de l'immigration, très peu d'histoire sociale, toujours les mêmes figures emblématiques. Donc ça, déjà, ça en dit long sur l'inefficacité de l'histoire scolaire, puisque l'histoire scolaire, c'est plus le récit national depuis longtemps. Hein. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur le fait qu'il faut quand même rester modeste quand on est prof d'histoire. Et puis, ce sont surtout, et ça, c'est vrai que ça nous avait beaucoup étonné, des récits extrêmement enthousiastes. C'est-à-dire que les gamins, c'est « Vive la France ! Qu'est-ce qu'elle est belle, la France !» Alors à l'époque, bon, c'était « Vive Nicolas Sarkozy !» Il y en avait qui se terminaient comme ça, « Vive Nicolas Sarkozy !» Parce que je pense que c'était la toute fin de sa présidence. Et donc, il y avait comme ça cette espèce d'enthousiasme démesuré pour la fierté vraiment d'être là, quoi. Et le contraste avec ces vieux grincheux, là, en même temps, qui disaient « Ah, ils aiment plus la France !» Et ça, c'est parce qu'on enseigne plus Clovis. Enfin, c'était assez extraordinaire. Ça prouve bien que ce sont des peurs qu'ils ont qui sont complètement hors sol.
Oui, enfin, comme la grande majorité des paniques morales. Et d'ailleurs, alors, dernière des paniques morales, même si on en a un tout petit peu parlé,
vous savez que vous ne faites plus de chronologie. Hein. Je vous rappelle que le président a dit qu'il faudrait que vous fassiez plus de chronologie. Vous faites de la chronologie et notamment Magali, tu voulais nous montrer ta chronologie.
Oui.
Si Nayan, tu peux...
En effet, je fais de la chronologie. Comme je le disais tout à l'heure aux grandes dames de certains élèves, je ne fais pas de la chronologie, je ne traite pas les choses dans l'ordre. Mais par contre, dans ma classe, il y a un outil qui s'appelle la chronologie vivante et qui, au début de l'année, est complètement vide. Il y a juste les périodes. Elle est complètement vide. Et en fait, au fil de l'année, au fil de nos questionnements, cette chronologie va se peupler. Et quand on la regarde, d'abord, il y a ce qu'il y a en dessous de la chronologie et ce qu'il y a au-dessus de la chronologie. Ce qu'il y a en dessous de la chronologie, ce sont...
Ah, c'est parce qu'on ne la voit pas. Là, comme ça, tu verras. Voilà, c'est ça qu'on voit.
Donc là, on voit ce qu'il y a en haut de la chronologie. C'est de la micro-histoire, c'est de l'histoire locale. On voit notamment la naissance de la maîtresse. Cette année-là, il y avait quelque chose qui avait beaucoup marqué les élèves, qui était la mort de Naël et puis les émeutes qui s'en étaient suivies dans les quartiers et notamment dans le nôtre. Ce qu'on va voir en bas de la chronologie, c'est ce qu'on appelle la grande histoire.
Alors, peut-être
qui se construit au fur et à mesure. Voilà, on voit la grande histoire. Et donc là, on voit la construction du 19e siècle. Mais surtout, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a du questionnement. Et ça, c'est très important. Là, par exemple, on voit monarchie absolue jusqu'à quelle date ? Parce que, à un moment, on s'est posé cette question-là dans la classe. Et puis, c'est à partir de ça qu'on va construire le temps. Donc, c'est en fait, en réalité, la chronologie, une activité intellectuelle intense qui permet de comprendre que faire de l'histoire, c'est construire un savoir, c'est construire un temps, et c'est pas seulement construire des choses qui se juxtaposent, mais c'est construire des dynamiques, en fait, au sein des populations, au sein des gouvernements, des modèles politiques, au sein des mouvements sociaux, etc. Et c'est ça qu'on va interroger, en fait, avec les élèves. Donc, effectivement, moi, je ne vais jamais la traiter de façon chronologique, en partant du début et en allant jusqu'à la fin. Ça peut donner un aspect très fouillis comme ça, mais en réalité, en plus, elle est à hauteur d'enfant dans la classe, les enfants s'y réfèrent tout le temps. Et il y a tout le temps des choses à amener dedans. Chez les petits, moi, pendant longtemps, j'ai eu une classe de CE2, CM1, CM2, dans laquelle, un jour, un petit Enzo m'a dit « Mais ma grand-mère, elle a connu les dinosaures ?» Alors, les dinosaures, ils sont où sur la chrono? Et surtout, ta grand-mère, elle est née quand? Elle est née en 1962. Alors non, au début, c'était elle à quel âge? À partir de son âge, on a calculé son année de naissance.
Ça fait maths.
Voilà, ça fait des maths. C'est ça, hein, la pédagogie Freinet, c'est un truc vivant. On a calculé sa date de naissance, c'était 1962. Du coup, il y a une gamine qui a dit « Mais 1962, c'est la guerre d'Algérie ?» Et il y en a un autre qui a répondu « Oui, enfin, elle n'a pas dû beaucoup participer parce que c'était un bébé. » C'est ça, en fait, construire.
Oui, mais il n'y avait pas de dinosaures pendant la guerre d'Algérie.
Et non, il n'y avait pas de dinosaures. Et du coup, voilà, c'est ça,
c'est
en fait.
C'est Finkielkraut, en fait.
Mais c'est ça aussi, faire de la chronologie, c'est palper le temps, comprendre ce que c'est. Et ça, si on le fait de manière vraiment chronologique, je ne crois pas qu'on le comprenne vraiment.
Alors, pour autant, Laurence, dans un article du Café Pédagogique, je reviens à... Parce que tu étais plutôt positive, là, par rapport, malgré tout, au manuel. Tu dis, les manuels sont de plus en plus frileux sur les sujets sensibles. Oui. Est-ce que tu peux développer ?
Oui, en fait, un manuel, c'est ce que j'appelle un outil de refroidissement. C'est-à-dire que dans l'histoire, il y a des sujets qui sont des sujets particulièrement sensibles. Dans l'histoire scolaire, dans l'histoire en général, mais dans l'histoire scolaire, il y a des sujets qui sont particulièrement sensibles, on les connaît. Ce sont les sujets qui sont relatifs aux faits religieux, par exemple l'histoire de l'islam. Ce sont les sujets sur l'histoire coloniale, hein, très très important, enfin très voilà, très vif, parce que ce sont des sujets qui soulèvent des enjeux sur le racisme, etc. L'esclavage, l'histoire de l'esclavage, bien sûr le génocide, les génocides. Et puis le conflit dit israélo-palestinien, en tout cas voilà, tous ces conflits évidemment avec une actualité aujourd'hui particulièrement criante. Qu'est-ce que ça veut dire un sujet sensible? Ça veut dire que les élèves, ils arrivent dans la classe avec déjà des savoirs sur ce sujet. Ce sont des savoirs qu'ils entendent dans les médias, qu'ils voient sur les réseaux sociaux, qu'ils entendent dans les familles et ou qu'ils se construisent entre eux, hein, entre pairs. Et parfois ces savoirs ne coïncident pas avec les savoirs scolaires, qui sont les savoirs savoir produit par la recherche historique et par la pédagogie. Et donc, potentiellement, il y a la possibilité qu'il y ait des accrochages, des clashs, des incompatibilités, et pour certains enfants même, des effets de conflit de loyauté. Par exemple, quand on enseigne l'histoire de l'islam...
Ouais, ce que tu racontes beaucoup dans ton livre aussi,
Magali. C'est des enfants qui vont se dire « mince, c'est pas ce que m'a dit ma maman », etc.
Tout à fait.
Et
je pourrais y revenir après.
Ouais. Et un manuel scolaire sur les sujets sensibles, en fait, la majorité des éditeurs vont se dire « bon, je veux pas être accusé de gauchisme, hein, donc je vais pas en dire plus sur les violences coloniales que mon autre, que mon concurrent direct. Mais ils vont aussi se dire « je peux pas être accusé d'être trop droitard et trop réac, parce que quand même, les enseignants, même si aujourd'hui il y en a 22% qui votent Rassemblement National, ça reste encore une petite forteresse de gauche. Donc, il faut que je sois neutre. »
Oui, parce que l'idée, c'est qu'il veut être acheté.
C'est ça, le nerf de la guerre, c'est ça. Donc, il faut être neutre. Voilà. Et alors, ça donne des trucs, c'est pour ça que je parle de circuit de refroidissement, enfin d'outils de refroidissement, parce que ça donne des trucs qui, du coup, historiquement, sont plus justes du tout. Par exemple, vous allez avoir la mise en équivalence sur une double page d'une photo la torture en Algérie avec des soldats du FLN massacrés. Et puis, en face... un petit texte ou une autre photographie qui va montrer que des Français ont aussi fait l'objet d'exactions de la part du FLN. Mais la torture en tant que pratique systématique, militaire, officielle, c'est pas du tout la même chose que les actes de violence qui sont commis par le FLN sur les colons français. Donc on a toujours une procédure de mise en équivalence comme une espèce de symétrie. Il faut obligatoirement une symétrie. Or, dans l'histoire, nous, on ne raisonne pas avec de la symétrie.
Un peu comme sur un plateau télé, quoi.
Exactement.
Voilà. C'est les mêmes logiques de plateau télé.
C'est exactement ça. Ouais. Et donc, ils sont de plus en plus frileux. Et quand j'ai écrit cet article pour le Café Pédagogique, j'étais aussi très, inquiète parce qu'il y avait eu le projet de Gabriel Attal de mettre en place la labellisation des manuels. Ouais. La labellisation par le ministère de l'Éducation nationale des manuels. Et alors là, on tombe dans autre chose. C'est-à-dire que s'il y a une labellisation, ça veut dire que vraiment, on va pouvoir parler de récits officiels. Hein, parce que les éditeurs qui n'auront pas de label, ben là, ils seront sûrs de pas être achetés. Avec un truc qui était extrêmement vicieux, bon, c'est passé à la trappe, hein, qui était de dire les collectivités territoriales ne financeront que les manuels labellisés.
Ah ouais.
Là, c'était un truc de dingue.
Ah, je me souvenais plus
et
de ça.
Et comme les écoles, elles ont jamais les moyens d'acheter leur propre manuel, donc on pouvait pas acheter autre chose que le manuel labellisé. Donc ça, couplé au fait que c'était frileux, c'est pour ça effectivement que j'étais très pessimiste et alarmiste sur ce projet.
Ouais, pour rebondir sur ce que tu dis sur l'achat des manuels, dans l'école primaire. C'est les mairies qui financent le matériel scolaire, dont les manuels. Et du coup, on a un budget qui est très contenu, en fait, pour pouvoir acheter des manuels.
Oui, et qui doit être en réduction, en plus.
Qui est tout le temps en réduction. Et les manuels, je le disais tout à l'heure, en histoire et géographie, c'est très, très cher. Je montre un des meilleurs manuels qui existent. Même plus que ça. Celui-ci, par exemple, qui, en fait, n'est pas un manuel à destination des élèves, est ce qu'on appelle le livre du maître. Celui-ci, il coûte entre 50 et 60 euros.
Ah ouais.
Ouais. Dedans il y a un DVD donc qui permet de projeter des choses ou une clé USB maintenant qui permet de projeter des choses et si on veut les documents papier, il faut les acheter en plus, ça coûte 30 balles. C'est très très cher. Et une des autres manières de faire, finalement, c'est d'avoir plusieurs manuels dans sa classe en un exemplaire. Moi, c'est ce que je fais, c'est pour ça que j'en ai plein et que je les apporte mais je les achète avec mes propres deniers. Finalement, parce que sinon je ne peux pas les financer. Mmh. Ça n'est pas possible techniquement. Et puis pour revenir sur ce que tu disais, sur la machine à refroidir l'histoire. Effectivement, c'est très important. En début d'émission, je montrais l'un des manuels qui montrait ces tirailleurs sénégalais. Il se trouve que moi, dans ma classe, quartier populaire, j'enseigne avec une écrasante majorité d'enfants racisés dont l'histoire familiale, croise ces tirailleurs sénégalais, notamment. Si c'est pas dans les manuels, les enfants ne se reconnaissent pas. Et puis en plus, on contredit l'histoire. Donc ça, c'est un problème. Et en fait, finalement, de partir de leur propre histoire, ça permet aussi clairement d'interroger, et là je vais encore donner un exemple sur la Seconde Guerre mondiale, parce que cette année je travaille beaucoup là-dessus, c'est parti d'un questionnement des élèves sur « mais pourquoi la création de l'État d'Israël ?» Et oui, c'est une question, sensible à laquelle il faut pouvoir répondre, et c'est très difficile, en utilisant la méthode historique, et du coup on est allé chercher l'origine de cet État d'Israël, qui se trouve notamment dans la Seconde Guerre mondiale, mais pas seulement. Et du coup, notamment, on travaille sur le génocide des Juifs d'Europe. Et un des questionnements très intéressants dans ma classe, c'est... On s'est posé plein de questions, etc. Pourquoi Hitler en voulait en particulier à la religion juive ? Et puis une question qui est apparue, bah, pourquoi il n'en voulait pas à la religion musulmane ? Eh bien, ça vient croiser quoi ? Ça vient croiser l'état de la population à un instant T, en France, dans d'autres pays d'Europe, etc. Ça vient aussi croiser l'histoire coloniale. Et là, ouais, à partir d'une vraie pratique de ce que c'est que l'histoire, on va pouvoir interroger tout ça et comprendre pourquoi la population était comme ça en 40, pourquoi elle est comme ça maintenant, etc., etc. Mmh. Voilà.
Alors, quel risque fait courir au manuel scolaire, en histoire notamment, la mainmise croissante de Bolloré sur les maisons d'édition scolaires, ce qui a même conduit à, ça, c'est issu des solidaires qui appelaient à boycotter les manuels, Hachette notamment.
Alors ça, c'est une question compliquée, en fait, parce que il faut pas imaginer que Bolloré va pouvoir exercer une censure, en tout cas pas tout de suite, sur les manuels scolaires.
Oui, on viendra sur le risque d'après.
Voilà, ouais. Pour la raison dont on parle depuis le début de l'émission, à savoir que l'intérêt de Bolloré, c'est que les livres se vendent, hein, c'est quand même ça, hein, la concentration éditoriale,
ouais,
c'est que
fric,
les livres se vendent, aussi. Et donc, s'il y met de la propagande qui n'ont rien à voir avec les programmes et de la propagande d'extrême droite, les livres ne se vendront pas. Bolloré, faut le rappeler, c'est quelqu'un d'extrêmement toxique et dangereux, mais il a déjà beaucoup de maisons d'édition qui sont aussi non scolaires, dans lesquelles il publie des auteurs très à gauche. Et ça le sert. Ça le sert à dire « je suis un grand démocrate, moi, je n'exerce pas de censure ». Donc, dire que Bolloré, le risque de l'extrême droite, ça va faire qu'il va y avoir un discours d'extrême droite, un récit historique d'extrême droite dans les manuels détenus par Bolloré, pour le moment, ce n'est pas posé correctement la question, ce risque, le risque, il n'est pas là. En revanche, on sait que le système Bolloré, accompagné de ses acolytes Pierre-Édouard Sterrin et d'autres, hein, parce que malheureusement il n'est pas tout seul, le système Bolloré, avec tout cet argent qui circule, rend aujourd'hui possible, je ne vais pas dire probable, une victoire de l'extrême droite aux futures échéances électorales. Cette victoire de l'extrême droite, là, elle va sans doute être suivie par une réécriture des programmes. Avec quelqu'un qui est le ministre de l'Éducation nationale pressenti par le Rassemblement national, qui est Roger Chudot, qui est un personnage particulièrement dangereux.
Tu peux le présenter un peu, parce
Roger
que je
Chudot,
pense...
Roger Chudot, c'est celui qui avait insulté les syndicats lorsqu'il les avait reçus dans la commission éducation et culture à l'Assemblée nationale. En gros, il leur avait dit « Oui, de toute façon, avec vous, c'est toujours la même chose, vous ronchonnez, vous n'êtes jamais contents. » Ils étaient tous partis. Et c'est quelqu'un qui est capable de dire de toute façon aujourd'hui dans les écoles la seule chose qui intéresse les élèves c'est de manger halal et puis bah, typiquement un grand défenseur du récit national, enfin bon voilà, c'est vraiment la caricature du type qui est obsédé par cette idée qu'il faut redresser la nation en commençant par redresser l'école. Là j'ai pas le temps de m'éterniser sur le programme de l'extrême droite pour l'école, mais ce serait intéressant, hein, d'y revenir.
Peut-être juste en dire quelques mots, il nous reste 10 minutes à peu près.
Ben, c'est vraiment c'est vraiment la remise en ordre. Hein. Donc ça va passer par les uniformes, avec des uniformes potentiellement différents pour les filles et les garçons. Mais ça, c'est pas dans le programme. Mais c'est expérimenté dans des écoles terrain. Donc c'est l'uniforme. C'est pour ce qui concerne l'enseignement de l'histoire. C'est vraiment dit comme ça. C'est une histoire qui remet en avant le récit national pour que les enfants aiment l'histoire. C'est les fondamentaux, les fameux fondamentaux.
La France,
lire, écrire, aime la France, pardon. Ouais, lire, écrire, lire, écrire, compter.
Ça, oui,
non, non, aime la France, aime la France. Voilà. Donc c'est une histoire qui est nationaliste, qui est xénophobe et qui est complètement instrumentalisée à des fins politiques. Alors là, effectivement, si le Rassemblement national arrive au pouvoir, les programmes vont être réécrits dans un sens beaucoup plus conservateur, réactionnaire et dangereux. Et là, le système Bolloré est prêt.
Oui, parce
là,
qu'il a,
il est prêt.
Ouais,
là, il est prêt. Tout est déjà là. Hein, voilà. Et c'est ça qui est extrêmement dangereux aujourd'hui dans le monde éditorial en général, propriété de Bolloré, c'est que ils ont tout installé pour rendre
pour
possible, pour camp, rendre ouais. possible ouais. une prise en main immédiate de l'outil. Mais ça, c'est valable dans la justice, c'est valable à plein d'endroits. Hein. Une prise en main immédiate de l'outil par l'extrême droite.
Voilà. Ouais, là, ça, là, sur le chat, ça débat sur les questions édition extrême droite. Donc, en fait, c'est ce dont vous allez parler plus tard à la Maison des Métallos. Donc, on y reviendra pour l'annoncer après. Mais c'est, là, c'est, ça parle de Fayard. Donc, on n'est pas directement dans la question, des programmes.
Ouais.
Ouais, c'est flippant. J'ai vu aussi, mais tu me dis peut-être si je me trompe, que le projet du RN, c'est de faire voter les programmes de scolaires et notamment d'histoire au Parlement.
Alors ça, malheureusement, c'est quelque chose qui est soutenu aussi parfois à gauche. Avec cette idée qu'on peut comprendre, hein, c'est-à-dire, ben voilà, c'est normal que la société s'en mêle, après tout, ça concerne toute la société, donc il faudrait faire en sorte que ce soit le produit d'une délibération de l'ensemble de la société dans une grande démocratie. Voilà. Le problème, c'est que si c'est le Rassemblement national qui est au pouvoir, la grande démocratie, Parlement sera au garde à vous.
Ouais.
Donc, c'est une idée dangereuse. Et d'ailleurs, au Conseil supérieur des programmes, et ça, c'est encore une idée de génie des socialistes, ils ont fait entrer des parlementaires, avec toujours cet équilibre, donc des parlementaires de gauche et des parlementaires de droite. Et c'est, en fait, ça a foutu un bordel monstrueux. Par exemple, pour les programmes de 2016, la parlementaire de droite, Annick Genevard, aujourd'hui ministre de l'Agriculture, qui était donc au Conseil supérieur des programmes, a fait fuiter les programmes d'histoire volontairement, les programmes provisoires d'histoire.
Ah, mais oui, je me souviens.
C'est elle qui a provoqué la panique morale. C'est elle qui a dit, attention, ils veulent enseigner l'esclavage et pas les Lumières. Et ça a fait une panique morale. Pourquoi ? Parce qu'on était à quelques mois des élections régionales. Donc, elle a fait passer ses intérêts politiciens avant les intérêts du CSP. Donc, attention.
Et donc, avant l'intérêt des élèves.
Et avant l'intérêt des élèves. Donc, attention à cette fausse bonne idée de vouloir faire voter les programmes par le Parlement.
Alors, dans le temps qui nous reste, juste une dernière question, hein, peut-être parce que vu que là, on en est à l'extrême droite passe au pouvoir, les programmes sont changés et faux. Hein, bon, pour vous deux, quel serait le manuel idéal, qu'est-ce qui serait souhaitable, comment aider toutes les deux les élèves à se lancer à la conquête du passé.
Un manuel idéal. Mais je sais pas s'il y a un manuel idéal. En fait, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. C'est surtout permettre aux élèves d'avoir accès à la matière historique avant toute chose. Après, un manuel idéal, ça serait plutôt, je pense, en primaire, outiller les enseignants et enseignantes pour leur permettre de se familiariser avec la méthode historique, leur permettre avec les élèves d'utiliser cette méthode qui permet justement par la confrontation des sources, etc., de faire surgir de la pensée. Ça, c'est quelque chose d'important. En fait, c'est vraiment outiller les enseignants en termes de didactique, finalement, plus. Et c'est ça qui manque cruellement en primaire. Et actuellement, il existe des manuels qui sont fichus comme ça. Celui-ci dont je parlais tout à l'heure, justement, qui n'est pas un manuel pour les élèves, mais un manuel pour les profs, dans lesquels, eh bien, il y a tout un tas de choses sur tout le background que doit connaître l'enseignant ou l'enseignante pour pouvoir étudier tel ou tel document, tout un tas de méthodologies sur comment interroger tel ou tel document, et pas avec justement du prêt-à-penser, parce que dans les autres manuels, ce qu'il existe, c'est, tu le disais tout à l'heure, Laurent, des documents choisis par l'éditeur, par les éditeurs, ou en tout cas par les auteurs et autrices du livre, avec en dessous des questions déjà rédigées, qui en fait vont induire une manière de problématiser, une manière, etc. Alors que, en fait, ce dont on a besoin, c'est ça, c'est pouvoir ne pas induire, pouvoir confronter, se questionner, partir de questionnements originaux et faire tout ça. Pour moi, en primaire, ce serait plus ça. Mais voilà.
Et toi, Laurence ?
Oui, bah moi, j'y réfléchis, bien sûr. J'y réfléchis à partir d'un travail que j'avais fait. Vous étiez là ce jour-là, c'était le stage de Sud Éducation ISEM, où j'avais intitulé mon intervention « Comment émanciper avec des programmes à la con ?» et en fait, maintenant, c'est vraiment ma ligne. Et donc, je réfléchis, et sans doute, c'est va être un des prochains chantiers du collectif. Hein. C'est pas toute seule, hein, parce qu'on n'écrit pas un manuel idéal toute seule, scolaire qui va donner la possibilité aux collègues de dire à l'inspection, parce que si le Rassemblement national est là, l'inspection va être aussi féroce. Donc de dire à l'inspection, moi je fais le programme, mais en leur donnant tous les outils pour le subvertir. Je pense qu'on peut faire quelque chose d'intéressant avec le récit national, en montrant à quel point c'est n'importe quoi.
Ouais, je me souviens d'une conversation qu'on avait eue sur « on peut émanciper avec le Congrès de Vienne ».
Exactement, oui, oui. Voilà, on peut émanciper avec le Congrès de Vienne. On peut, par exemple, je disais, là, il y a quelques jours, il y a eu un gros stage extrême droite et école organisé par la FSU et la CGT. Je vais vous montrer une photographie d'une lutte ouvrière sur laquelle il n'y a que des hommes. Et avec ça, vous faites l'histoire des femmes. Parce que la première question, c'est qui n'est pas là, qui n'est pas là. Voilà. Et ben, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que si on nous pond,
donc en fait, tu prépares de l'autodéfense subversive.
Exactement. Si on nous pond un programme de récit national à la con, on va faire le programme. Ha ha ha.
Enfin, on rigolera quand même pas. Alors, je suis désolée parce qu'on arrive à la fin de l'émission notamment ça se termine un peu plus court parce que je te laisse présenter ce qui va suivre et qui sera donc aussi au poste. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que si le poste arrive à faire tout ça, c'est grâce aux dons, grâce aux abonnements. Donc, on s'est dit régulièrement sur le chat, hein, mais voilà, on a besoin de vous parce que il n'y a pas d'autres moyens. Et donc, si tu peux présenter ce qui va suivre quelque part à l'antenne, le temps de faire le déplacement, voilà. Et qui est dans le même thème et qui est un thème qui a beaucoup été soulevé dans le chat. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas toujours repris les questions du chat parce que c'est plutôt des trucs qui relevaient généralement de l'édition où il y avait beaucoup de souvenirs de collège, d'école, etc. Ouais. Donc,
Alors à 20h là ce soir, l'Observatoire national de l'extrême droite organise une rencontre à la librairie des Métallos à Paris sur le thème l'extrême droite et le livre avec Nicolas Norito qui est donc l'éditeur de Libertalia et donc le propriétaire de cette librairie, avec Thierry Discepolo des éditions Agone, avec deux représentantes de Sud Culture et moi, qui vais parler justement de la question des manuels scolaires et animé par Pierre Jacquemin de Politis. Et on va effectivement se poser la question de ce que l'extrême droite fait au livre et à la fois dans le sens justement de attention danger, mais aussi en montrant comment le monde du livre aujourd'hui sert l'extrême droite, parce que c'est dans les deux sens. Hein. Et ce qui nous a donné l'idée de cette rencontre, c'est aussi les attaques contre les librairies aujourd'hui, hein, qui se multiplient et qui sont des attaques qui viennent de l'extrême droite. C'est de ça notamment dont parleront les camarades de
avec
culture.
Des descentes de police. Donc
les perquisitions, chez Violette Enco. Et il faut quand même préciser que l'extrême droite n'est pas au pouvoir. Hein, ce sont des perquisitions par l'actuel gouvernement. Donc à tout à l'heure pour celles et ceux que ça intéresse.
Voilà.
À tout de suite même.
Ouais. Eh ben je vous remercie toutes les deux. À nouveau je conseille à celles et ceux qui nous écoutent pour en savoir plus parce qu'on a toujours, enfin en tout cas moi j'ai toujours envie d'en savoir plus, d'aller voir vos livres. Hein, donc les élèves à la conquête du passé chez Libertalia et puis sur l'enseignement de l'histoire. Tu conseilles parce que dans la classe de l'homme blanc c'est un petit peu plus difficile.
C'est plus scientifique, celui sur l'enseignement de l'histoire qui s'appelle
l'enseignement de l'histoire à Libertalia
aussi
d'ailleurs.
On va l'actualiser. On attend que les nouveaux programmes soient officiels et je vais l'actualiser sur la question de l'enseignement de l'histoire. C'est vraiment celui-ci qui est le plus intéressant. Après sur l'outil pour les collègues. pour, notamment du premier degré, pour se mettre à jour sur une autre manière de raconter l'histoire, c'est l'histoire de France populaire.
Ben oui, l'histoire de France populaire.
Je l'ai aussi écrit pour eux, pour, pour les collègues du premier degré qui ne sont pas forcément historiens et auxquels il faut donner des billes. Quoi.
Bon, et puis s'il y a des profs d'histoire géo, renseignez-vous sur Aggiornamento Histoire Géo. Lisez aussi le Café Pédagogique, hein, qui est une super ressource. Bref, c'est un espace dans lequel on réfléchit beaucoup, dans lequel. On discute collectivement et on essaie de surnager dans la merde actuelle,
oui, voilà,
si
c'est
l'on
ça.
Peut dire. Et donc, on essaie de préparer la subversion. Eh bien, au revoir tout le monde. À dans un mois, a priori, ce sera une émission sur la guerre d'Espagne, dont c'est l'anniversaire, hein, 36. Ouais. Voilà. Et il y a un très beau livre qui sort et qui actualise beaucoup des choses sur la guerre d'Espagne. Je vous dis au revoir à toutes les deux. Je dis au revoir à toutes celles et ceux qui nous écoutent. Je dis merci à Uriel, merci à Nayan, merci à tout le monde. Et n'oubliez pas, à nouveau, n'hésitez pas à filer du fric au poste, à vous abonner, tout ça, parce qu'on en a besoin. Sinon, on ne peut pas faire les émissions. Salut !
Les amis, nous sommes sur opposte.fr. Abonnez-vous, les amis, c'est David Dufresne. Abonnez-vous, c'est important. Bon, la technique, c'est pas toujours ça. C'est artisanal, on est entre nous. C'est opposte.fr.
Attention, ça va être dans le clip.
Postez-vous l'abonnement. Non, abonnez-vous au poste.
J'encourage, faites un don à au poste. Ah non, c'est là la caméra.
Abonnez-vous au poste.
Et faites des dons à au poste. J'espère que tout le monde dans le chat, que tout le monde ici fait des dons à au poste. Il faut donner
de
l'argent
pour que ça existe.
Amis du café, amis de la police, abonnez-vous au poste.fr. Abonnez-vous.
On vous remercie tous pour vos dons, c'est cool.
Désarmer le récit, c'est important. Ça passe par quoi? Ça passe par muscler les médias indépendants. Voilà, soutenir au poste.
Abonnez-vous.
Donnez plein d'argent.
Il a raison, abonnez-vous à au poste et à Mediapart, aux deux.
Abonnez-vous.
N'oubliez pas, on a besoin de dons et de donateurs. Merci beaucoup.
Auposte.fr, il n'y a pas mieux.
Ah, on se moque de moi là, Bompard soutient au poste, mais devant la mauvaise caméra. Celle-là, elle est bonne ou pas? Faites un don à au poste, faut pas que ça soit qui reste. Donc je disais, il faut bien que vous provoquiez du débat, il faut provoquer du sujet, pour provoquer du sujet, il faut créer de la conflictualité.
Mais comment je vais rester indépendant si Bompard il demande aux gens de faire un don?
Oh, ouais, c'est vrai ça.
Tout ça n'existe que grâce à vous, parce qu'on est indépendant et on ne vit que grâce aux dons. Donc voilà, merci.
Et abonnez-vous.
Abonnez-vous au poste.fr, au poste.fr.
Oh, bravo. Oh, bravo.
Abonnez-vous au poste.fr.